fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagnon. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, merci de nous être fidèles, bonsoir à la diaspora africaine et togolaise. Ce soir encore, nous allons débattre de la crise sociopolitique au Togo, bien notamment, eh bien, après les élections législatives. Que pensez-vous de l'appel de la coalition arc-en-ciel en faveur de la tenue des états généraux de l'opposition? Quelles sont les perspectives de voir l'opposition après la proclamation officielle des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle? Est-il possible d'envisager ou non le boycott de l'Assemblée nationale? Tels sont les sujets que nous allons en débattre dans un instant avec nos invités ici même en Suisse au studio, également en direct depuis Lomé. Merci de nous être fidèles. Dans quelques instants, notre éditorial. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs des élections législatives 2013 au Togo. Cette décision, en réalité, n'a fait que confirmer les résultats provisoires annoncés par la CENI et protestés par les deux regroupements de l'opposition, à savoir le collectif Sauvons le Togo et la coalition arc-en-ciel. Dans le lot des observateurs, notamment l'Union africaine, qui se dit satisfaite du déroulement de ce scrutin, d'autres observateurs avisés ont osé le dire que ces élections législatives ont été encore une fois entachées de plusieurs irrégularités avec de fraudes massives à l'appui. Eh bien, que disent donc les États-Unis et l'Union européenne? Silence, car notre intérêt est en jeu. Mais un rapport d'une émission d'experts électoraux commis par l'Union européenne est venu asséner un coup à la crédibilité du scrutin, particulièrement à la sincérité des résultats provisoires annoncés par la CENI. Ce même rapport embarrasse Bruxelles. Et bien évidemment, amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, c'est parce que cette même Union européenne, dans un communiqué, tient à préciser que les informations contenues dans ce rapport provisoire ne reflètent que l'opinion d'experts électoraux indépendants, avant de conclure que ces rapports ne peuvent en aucun cas être considérés comme les positions officielles de l'Union européenne. Ambiguïté totale, flou total dans la position de l'Union européenne. Eh bien, ce qui démontre encore une fois la mauvaise foi de la communauté internationale dans la crise sociopolitique du Togo. Les Togolais doivent comprendre que la libération du Togo ne viendra jamais, eh bien jamais, de l'Occident. Pour revenir sur la participation des deux grands regroupements politiques qui ont décidé d'aller en rang dispersé à ces élections législatives, on pourrait en déduire que vu le schéma politique actuel, que pour eux, l'objectif de la participation n'est pas de l'emporter sur le parti du régime pour réaliser le changement politique, mais juste de se mesurer entre eux, comme d'habitude, pour voir lequel d'entre eux est plus important et doit donc prétendre être le candidat de l'opposition aux élections présidentielles de 2015. L'autre est qu'on pourrait dire l'autre également que la stratégie politique des deux regroupements repose sur les vieilles rivalités qui ont toujours miné la vie politique et avaient empêché toute forme possible d'union de l'opposition. Union de l'opposition, vous avez dit, mon œil. Car sera à l'ange le pouvoir qui s'en réjouit.
Certainement, Sylvain Amos, ami auditeur de Fenêtre sur l'Afrique, pour mémoire, depuis le soulèvement patriotique et mémorable du 5 octobre de l'an 1990, plusieurs citoyens togolais, jouissant de leurs droits civiques et politiques, se sont constitués en rempart pour porter haut les aspirations du peuple togolais. De la jeunesse martyrisée et paupérisée à qui de droit ? Il s'agit évidemment de chercher des voies et moyens de pouvoir renverser ou alterner la monarchie au Togo sous l'égide de Gnassingbé le Père. Cependant, il y a lieu de reconnaître que depuis lors, les habitudes ont la vie dure et que la monarchie est plus régente que jamais, perpétuée de père en fils grâce à la complicité ou à la naïveté de la classe politique opposante qui malheureusement n'arrive pas à tirer les leçons de l'échec de la lutte tout simplement par calcul et ambition politique partisan à des fins matérialistes et mercantilistes. Osons le dire, qu'en vérité, l'opposition politique togolaise, qui était notre amour hier, parce que ayant l'assentiment et la ferveur de tout un peuple, est devenue un souffre-douleur pour nous. Comment et pourquoi notre amour est devenu notre chagrin aujourd'hui? Le chagrin du peuple togolais qui se manifeste toujours par des votes sanctions aux renégats en son sein est un son de cloche qui retentit toujours. Le peuple, en ayant confiance en ses leaders, dans le but manifeste de changement de régime, ne digère pas du tout le fait que les mandatés en son nom, au lieu de bouter hors le régime, vont plutôt s'acoquiner à la recherche de leur pitance, c'est-à-dire de quoi vivre, que de réaliser le bonheur du peuple dans sa majorité. La belle preuve, c'est que tous les leaders qui se sont acoquinés avec le pouvoir, dans la logique de participationniste, connaissent tous de mort politique. Les citoyens ont célébré l'oraison funèbre politique des sieurs Edem Kodjo, Joseph Kokou Kofigo, Yaovi Agboibo, Léopold Ninevi, Zarifou Ayeva et tout récemment, celui de Gilles-Christ Olympio, Ia Belle Lurette. La raison en découle elle-même de la logique des faits.
Eh bien, Robin, pour être en phase avec ton opinion, nous en étions là et lorsque le peuple togolais attendait sereinement les résultats définitifs de la fameuse caisse de résonance de Fort Gnassingbé, eh bien, que dis-je, la CENI, quand brusquement, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, un des leaders, lors de son passage ici, même dans notre émission, eh bien, dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique, j'allais dire, notre invité lança une nouvelle bourde en réponse à une de nos questions, je cite, « Nous n'avons pas raison de ne pas aller à l'Assemblée nationale et de ne pas nous battre pour le peuple togolais. Notre objectif est de nous battre maintenant pour gagner des élections futures, locales et municipales, et de se préparer pour la présidentielle de 2015. » Que du non-sens, selon certains de nos auditeurs qui ont réagi juste après ces propos de solidaire. Eh bien, amis panafricanistes, togolais de la diaspora, jouissant de tous nos droits civiques et politiques, ne sommes-nous pas en légitimité de donner un bilan ou une clarification de l'orientation de la lutte politique et surtout de la manière dont ceux qui ont en affection nos amours pour la patrie et de clarifier leurs opinions et leurs positions? Le droit le plus absolu de la diaspora est de jeter un coup d'œil sérieux, vigilant et critique de la manière dont le combat se mène sur le terrain, et cette logique est d'autant plus évidente à partir du moment où les leaders et la classe politique dans son ensemble reçoivent le soutien de la diaspora, que dis-je, du peuple togolais. Eh bien voilà pourquoi nous sommes de ceux qui pensent que ce n'est pas que user d'esprit de sagesse et de bon sens si un citoyen togolais émet des observations ou critiques sur la position plus ou moins ambiguë de l'ensemble de l'opposition togolaise. Sans toutefois nous verser dans un pessimisme béat au risque de jouer aux oiseaux de malheur, nous invitons les citoyens togolais à une résistance contre la forfaiture et à avoir le courage de dire non à l'injustice, à la tricherie et surtout à résister devant la servitude de ces cantonnaires du Togo, notre chère patrie, notre dénigrant chéri. Eh bien, merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. sur Radio Canal K, bien sûr, sur Radio Denigban aux USA, et bien sûr, en rediffusion plus tard sur les gens de FM à Lomé au Togo et sur la VRA, la voix de l'horizon africaine. Merci de votre fidélité.
Radio Denigban, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Eh bien, avant de prendre nos invités au studio, également au téléphone, pour débattre sur la situation sociopolitique au Togo juste après les élections législatives dans ce pays, nous allons d'abord prendre tout de suite notre correspondante Fabi Kwasi Alomé, qui revient encore ce soir dans cette édition et dans une réflexion et qu'elle a titrée « Les détenus des incendies et tous les autres laissés aux oubliettes ». Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir. Bonsoir à tous. Pour beaucoup de Togolais, le maintien en détention de certains prisonniers personnels de la République est lié aux élections législatives. Plus de 3 semaines après la mascarade électorale du 25 juillet dernier, silence radio. Les autorités font semblant donc d'ignorer ces détenus dont l'état de santé appelle un peu d'humanité de la part de ceux qui régentent le Togo depuis près d'un demi-siècle. Depuis plusieurs mois que des voix s'élèvent sur la préoccupante santé du président du MRC Abbas Frédéric Kabwa en vue de son transfert sanitaire pour des soins appropriés, les lignes n'ont pas du tout bougé. Il est rappelé que M. Kabwa se préparait à se rendre déjà en Europe où il devrait suivre une opération chirurgicale quand les services de renseignement l'ont arrêté pour violation du secret de l'instruction dans le sombre dossier des incendies. Il fut donc déféré à la prison de Gontian dans des conditions plutôt rocambolesques où le président du MRC a été torturé, violenté. Depuis, toutes les tentatives pour lui permettre de guérir sont restées lettres mortes. Son cas et celui du commandant Olivier Hamon ont été évoqués en vain lors des fausses dernières discussions d'avant les élections conduites par Mgr Nicodème Barriga et le fameux ambassadeur américain Togo Robert Whitehead. Les indiscrétions soutiennent que le ministre de l'administration territoriale, qui malgré son zèle ne pouvait trancher sur cette question, reviendra dépité le lendemain pour confirmer que son mentor Fornia Simbé n'a rien dit sur la libération de ses frères détenus. Autrement dit, Abbas Kabwa et commandant Ama Olivier devraient encore pourrir en prison pour longtemps. Même réaction du numéro 1 togolais sur le cas de son demi-frère Patiana Simbé, que l'arrêt de la cour de la CEDEAO a pourtant libéré, si tant est qu'au lieu d'appliquer la loi, on ne s'est plutôt versé dans des démonstrations farfelues pour soutenir que cette juridiction sous-régionale n'a jamais libéré Patiana et co-accusé. Il faut faut juste rappeler que l'arrêt a pourtant ordonné de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires et urgentes pour faire cesser la violation du droit des requérants à un procès équitable. Il n'est pas superflu de rappeler que la même cour de la CEDEAO a condamné l'État togolais à payer entre 3 et 20 millions au titre de dommages et intérêts aux requérants pour les avoir torturés. Depuis que le ministre de la Justice, véritable charlatan du droit au Togo, Tshitao Tshalib, a promis au nom du gouvernement que cet arrêt sera respecté, rien n'a été fait. Pendant ce temps, Abbas Kabwa voit sa santé se détériorer tous les jours. Le commandant Ama Olivier, dernière nouvelle aussi, est très souffrant depuis quelques jours, mais les autorités observent un silence total. Certaines sources confirment d'ailleurs que pour un problème de pied, Patia Nyasimbe a eu en prison il y a un certain temps qui nécessitait les soins d'un kiné. Le sommet de l'État aurait refusé qu'il puisse être soigné. Sans oublier donc les milliers d'anonymes qui n'ont pas leur place dans nos cellules, souvent enfermés pour des menus fretins, alors même que les vrais coupables de crimes de sang et de crimes économiques jouissent d'une totale impunité au nom de M. Faure Gnassingbé. En attendant que le plus fort des Togolais ne daigne les libérer, les détenus ne peuvent que se remettre dans les mains du Tout-Puissant pour ne pas subir le sort d'un jeune Étienne Yakanou, on se rappelle, décédé dans les mains de la gendarmerie nationale, dans le même dossier rocambolesque des incendies des marchés de Lomé de Kara, dans des conditions plutôt floues pour non-assistance à personne en danger.
Fabi Kwasi, merci et à samedi prochain.
VRA, Voix de la Résistance africaine, partenaire de l'Aide Sud-Afrique.
Le Togo, notre Odenigban se meurt politiquement, socialement et économiquement. Pour ce faire, le collectif de résistance de la diaspora, CRD Togo, lance un appel patriotique pressant à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, spécialement la diaspora, pour le ralliement du front de la résistance citoyenne. Chaque contribution, quelle qu'elle soit, est déterminante pour réussir la mission de restauration citoyenne de la terre de nos aïeux.
Oui, d'accord.
Pour toute contribution financière, contactez les responsables du CRD au 0041 78 676 51 62 0041 76 378 02 77.
Oui, d'accord, avions l'envoyé.
Merci pour vos dons financiers au CRD.
Oui, d'accord, avions l'envoyé.
Togolais, viens, bâtissons la cité. Oui, Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Eh bien, retour au studio dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci de nous être fidèles. Eh bien, le débat annoncé, on le disait tantôt après les élections législatives. Que pensez-vous de l'appel de la coalition arc-en-ciel en faveur de la tenue des états généraux de l'opposition? Quelles sont les perspectives devant l'opposition après la proclamation officielle des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle? Est-il possible d'envisager ou non le boycott de l'Assemblée nationale? Nous allons en débattre tout de suite avec nos invités, notamment Dr. Atou Edem Kwasi, qui a bien voulu faire le déplacement de Genève ici en Suisse. Dr. Edem Atou Kwasi, bonsoir.
Bonsoir Sylvain, et mes lumineuses et précieuses pensées à toutes les filles, à tous les fils du Togo.
Merci Dr. Atou Kwasi pour en débattre également depuis Lomé. Fulbert Sassou, il est journaliste, écrivain, auteur du livre Le Togo sous la dynastie de Gnassingbé, paru en 2012 en France, édition Armatan. Fulbert Sassou Atissou, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Amos, et bonsoir à tous les amis de la diaspora.
Merci beaucoup, Philibert Atisso. Je le disais, la toute première question directement au docteur Atou Edem Kouassi. Avant de lancer la toute première question, je rappelle à nos auditeurs que cette émission est co-animée par notre collaborateur que vous suivez évidemment tous les samedis, Romain Koudodi, qui est venu au studio. Merci d'avoir également fait le déplacement depuis Bonn en Allemagne, ici en Suisse, à Rouen. Bonsoir, Romain Koudodi.
Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, mon très cher ami et frère Philibert Atisso.
Eh bien, tout de suite, docteur Atou Kouassi, vous êtes au studio. Après les élections législatives, la coalition arc-en-ciel vient de lancer un appel pressant à tous les partis politiques, à tous citoyens togolais, que finalement, il faut constituer un état généraux, des états généraux de l'opposition. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Atou Edem Kouassi?
Je remercie Sylvain Amos de l'opportunité offerte au collectif de résistance de la diaspora de donner son avis sur l'actualité politique de notre pays. C'est vrai que nous sommes au lendemain des législatives frauduleuses du 27 juillet 2013 que le collectif de résistance de la diaspora avait dénoncé, mais dont nous avons pris acte de la participation de nos amis qui malheureusement ont vu leur victoire une fois de plus volée. Nous saluons la mission d'observation électorale de la diaspora pour son travail impartial. Mes pensées vont au docteur Martin Amouzou et ses amis, à ceux du Burkina Faso qui ont fait ce travail également. Travail qui vient de trouver une confirmation et un appui non des moindres à travers le positionnement sans ambiguïté de la mission d'expertise électorale de l'Union européenne, heureusement pour l'humanité qui est encore des gens honnêtes. Et donc, par rapport à ces deux rapports dont le CRD a possession et qui nous permettent de nous expliquer, il y a lieu de dire que il faut pas ajouter la confusion à la confusion actuelle. Parce que d'abord, il faut pas qu'on donne l'impression aux populations, à l'opinion nationale et internationale, que c'est parce que l'opposition a été battue que des états généraux s'imposent. Le CRD s'explique. C'est-à-dire, l'opposition n'a jamais perdu les législatives. C'est pour ça que j'ai dû faire appel à ces deux rapports qui ont été clairs. Donc faire croire, comme Jerry Tamal a commencé avant la proclamation de résultats par la CENI et ensuite la Cour constitutionnelle qui l'entérine, que l'opposition a été battue, comme l'opposition a été battue. Il faut clarifier les choses. Il faut arrêter cette blague, c'est de la manipulation.
Je vous comprends. Bon, donc pour vous, cet appel est venu un peu tard. Nous allons demander d'abord...
Attendez Sylvain, je vous en prie, il faut pas que mes propos prêtent à confusion.
D'accord,
je termine. Je ne dis pas que cet appel est venu si tard, mais je dis il faut pas qu'il y ait de la confusion. L'opposition en tant que telle n'a pas été battue aux législatives et parce que c'est la déclinaison qu'on veut faire passer que pour nous au CRD, ça joue pas. S'il y a lieu de faire des états généraux de l'opposition, il faut pas que ça rime à un postulat initial faux qui voudrait dire que oui, parce que l'opposition était battue aux législatives, états généraux. Ça, c'est faux, ce
d'accord,
postulat.
D'accord.
Voilà.
On va demander également l'avis de notre deuxième intervenant depuis Lomé, le journaliste auteur du livre Le Togo sous la dynastie de Nyasingbé, Philibert Sassou Atisso. Rebonsoir.
Rebonsoir, Sylvain Amos.
Vous avez suivi l'opinion du docteur Atou Edem Kouassi sur l'appel lancé par la coalition arc-en-ciel en faveur de la tenue des états généraux de l'opposition, Philibert Sassou Atisso.
Ben oui, j'ai suivi les argumentations du docteur Atou, sauf que je ne les partage pas beaucoup, ces argumentations, parce que moi qui suis sur le terrain, je dois vous dire que après les élections législatives qui ont donné le résultat que nous connaissons, tout le monde est d'avis que l'opposition doit s'asseoir pour redéfinir les choses. Bon, maintenant, que les élections aient été frauduleuses, que l'opposition ne l'ait pas perdue, ce n'est pas là la question, à mon avis, parce que dans tous les cas, ce qu'il faut connaître aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des élections et des résultats ont été donnés. Moi, je pense qu'après 23 ans, la mission de notre opposition, c'est de faire en sorte que le pouvoir qui fraude tout le temps des élections ne puisse pas les frauder la dernière fois. C'était une mission fondamentale de l'opposition. Parce que, pour moi, l'opposition ne peut pas rester là à crier tout le temps, à chaque fois qu'il y a des élections, que le pouvoir les a volées. Encore que cette opposition s'est enrichie de gens qui avaient fait le pouvoir et qui sont venus avec une certaine expertise, surtout en matière des fraudes électorales. Donc la première mission de l'opposition, c'est de faire en sorte qu'elle empêche les fraudes. Et la deuxième chose, si fraude il y a, ce que je ne conteste pas, parce que je ne vois pas comment le RPT pourrait gagner les élections autrement, mais il faut que l'opposition soit à même d'apporter les preuves avec des procès-verbaux qu'il y a eu des fraudes. Moi, je pense que l'argument selon lequel les élections ont été fraudées par le Parti Uni, c'est pour cela que ce parti les a gagnées, ben, on ne peut plus tenir cet argument-là aujourd'hui. J'ai dit que deux choses justifient ce qui s'est passé. Le fait que les élections ont été organisées de façon unilatérale, première chose. Et deuxième chose, le fait que l'opposition a laissé le terrain, les villes, les campagnes, et que le parti Unir a donné des libéralités, des cadeaux pour conditionner les électeurs dans un sens donné. Maintenant, après ces élections, je pense que c'est ça qui est important, il faut que l'opposition, dans son ensemble, les deux grandes coalitions, le CSPANC et la coalition arc-en-ciel, s'asseyent pour tirer tout au moins les conséquences de ce qui s'est passé. Même à supposer qu'il y a des fraudes, il faut que l'opposition s'asseye pour tirer les conséquences. Et moi, je dois vous dire que je suis l'un des chancres de ce que j'appelle les états généraux de l'opposition. Parce que ça fait 23 ans que cette opposition a été constituée, qu'elle bénéficie du soutien des populations qui aspirent profondément au changement et à l'alternance, et que cette opposition ne gagne pas. Je pense qu'aucune entreprise humaine ne peut prospérer si, sur des étapes données, ceux qui sont les tenants de cette entreprise ne s'arrêtent pas pour faire l'évaluation des stratégies, l'évaluation des méthodes, l'évaluation des options pour savoir s'il faut continuer dans le même sens ou s'il faut réajuster le tir. C'est en cela que l'opposition doit aller vers une conférence bilan pour savoir pourquoi elle ne gagne pas depuis 23 ans.
D'accord.
Qu'est-ce qui se passe? Où sont les raisons des échecs? Pourquoi il y a tant de trahisons au sein de l'opposition? Et de ces assises bilan, ce que la coalition arc-en-ciel appelle les états généraux de l'opposition, on sort de nouvelles stratégies, on sort de nouvelles méthodes, et puis on dégage de nouvelles perspectives, surtout que 2015 est à nos portes. Donc je suis entièrement d'accord avec la coalition arc-en-ciel.
D'accord.
Et je ne partage pas la position aujourd'hui du CST qui estime que, même s'il est vrai que le RPT, ou en tout cas le Parti Unir, a dégagé 62 députés et que le CRP arc-en-ciel n'en a que 25, et que les chiffres ne sont pas tellement défavorables à l'opposition et qu'il faut foncer, qu'il faut aller de l'avant. Moi, je ne crois pas qu'il faille foncer et faire comme on faisait avant.
Merci.
Il faut arrêter, faire le bilan.
Ok, d'accord. On comprend aussi votre position. Rapidement, une réaction, je pense, docteur Edem Achukwasi,
Je remercie Fulbert pour sa réaction, mais je pense, Fulbert, que en matière de science et de rigueur, il faut que les postulats de base soient clairs. Je précise, une remise en place dans toute activité humaine s'impose. C'est pour ça qu'on parle de bilan d'étape, d'évaluation, mais il faut faire les évaluations sur des bases claires. Je dis ceci, ok pour une remise en place, mais il faut que le postulat qui est le présupposé de ces remises à plat
soit sincère et honnête, à savoir que oui, 23 ans de lutte avec des victoires, hein, des victoires sans cesse volées. Que faire? Et non, défaite électorale, que faire? Parce que quiconque va me dire que défaite électorale, que faire, est un imposteur et un ennemi avéré de toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier.
On va se calmer, on va
donc,
se calmer.
Nous disons au CRD, voilà, nous disons au CRD que oui, à la remise en plat, mais que ça soit sur des postulats clairs pour ne pas ajouter confusion à la confusion au sein de l'opinion nationale et internationale. Parce que nous-mêmes, nous sommes les chantres de la remise en plat et la démarche dans laquelle le CRD s'inscrit d'ailleurs, c'est une approche par le bas qui exclut les jeux d'appareil. C'est pour ça que nous travaillons ardemment à ce qu'émerge une nouvelle force qui regroupe seule de la diaspora et seule du territoire national, prenant en compte, bien entendu, je précise pour que M. Philbert Atisso et tous nos auditeurs l'entendent, prenant en compte la crise togolaise dans sa perspective holistique, globalisante, et non dans une perspective parcellaire, politicienne et électoraliste. J'en ai fini pour le moment.
Merci beaucoup, docteur Idem Atou Kouassi, dans ce débat également. Et notre collaborateur Romé Koudodi a également une préoccupation à soumettre. Romé Koudodi.
La préoccupation est celle-ci. Évidemment, le camarade Fulbert a été l'un des chantres de l'état général qui s'impose à toute la classe politique. Mais la belle question que je voudrais poser à Monsieur Fulbert est celle-ci. Est-ce que c'est illico presto ou du moins les faits qui coïncident juste après la défaite électorale ne nous posent pas une seule question de faire une pause pour savoir à quand juste cet état général s'impose?
D'accord. J'espère que Philbert Atisso a suivi Romé Koudodi et l'intervention du docteur Atou Edem Kouassi.
J'ai bien suivi la question de mon ami et confrère Koudodi Romain, précédé par une analyse que j'ai appréciée. Je pense qu'il voulait savoir dans la chronologie si les états généraux s'imposent parce qu'il y a eu cette défaite. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est plus le moment d'épiloguer sur est-ce que les élections ont été volées ou est-ce que c'est l'opposition qui a gagné ces élections qui ont été fraudées ou volées par la suite par le pouvoir uni. Mais je pense que cette question n'en a plus sa raison d'être. La seule question qui s'impose aujourd'hui, après que la Cour constitutionnelle a fait sa sortie pour confirmer a posteriori les résultats donnés par la CENI, c'est de constater que nous avons une Assemblée nationale où il y a 62 députés unis, 19 CSTANC, Arc-en-Ciel 6, 3 à l'UFC et 1 pour Sursaut Togo. Alors, il faut constater ça et savoir que, à supposer même que les élections aient été volées, alors pourquoi est-ce que l'opposition va laisser tout le temps le parti au pouvoir voler ces élections? Les élections ne se passent pas sur la Lune ou dans un stratosphère quelque part. Les élections se passent au Togo sur le terrain. Est-ce que l'opposition est autant incapable d'empêcher les fraudes? Si elle est incapable, après 23 ans, d'empêcher les fraudes, alors elle doit se reconstituer, elle doit repenser sa lutte. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est que les états généraux s'imposaient depuis très longtemps. C'est pour cela que j'ai été assez critique pendant tout le temps avec le CST, parce que j'estimais que le CST n'a pas été le résultat du bilan des échecs successifs que nous avons connus. Moi, je pense que une nouvelle opposition ou une nouvelle structure doit venir ou doit se greffer sur, justement, le bilan des échecs successifs et voir comment redéployer aujourd'hui l'opposition avec de nouvelles perspectives. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les états généraux de l'opposition s'imposaient depuis très longtemps, parce que l'opposition a fait 23 ans
justement,
elle n'a pas réussi à
justement, justement, Fulbert Atisson, nous parlons justement de la tenue des états généraux de l'opposition. Alors, division, il y a 23 ans, pour vous, et quelle était la cause de cette division de l'opposition?
Bon, mais la division de l'opposition, ça, nous le savons déjà. C'est parce que, d'abord, le parti en face joue justement la division. Le parti uni n'a jamais voulu que l'opposition soit unie, parce que unie, l'opposition est forte. Donc, il faut tout faire pour diviser l'opposition. Alors, la deuxième chose, le manque de confiance entre les acteurs.
Est-ce que, Philippe Latisse, est-ce que c'est l'opposition qui s'autodivise ou bien c'est le pouvoir qui divise l'opposition?
Le pouvoir utilise également des stratagèmes pour diviser l'opposition. Il y a le fait que le pouvoir veut avoir en face de lui une opposition divisée. Donc, il fait tout pour que l'opposition soit divisée. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des causes inhérentes à l'opposition elle-même qui justifient ou en tout cas qui expliquent sa division. Alors, les égos surdimensionnés, les conflits de leadership, la crise de confiance, parce que, par ailleurs, certains membres de l'opposition aujourd'hui avaient flirté dans un passé récent avec le pouvoir, on ne fait pas confiance à ceux qui avaient flirté avec le pouvoir. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont internes à l'opposition, qui justifient ou en tout cas qui expliquent cette division. Dans tous les cas, moi je pense que l'opposition est arrivée aujourd'hui à un niveau où elle doit s'asseoir dans toutes ses composantes pour savoir qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui peut nous unir. Au moins ce qui peut nous unir, c'est le fait que nous voulons tous une alternance pour ce pays. Parce que sans alternance, ce pays ne marchera jamais. Donc il faut une alternance. Au moins, on est unis sur ce point-là. Alors ce qu'il faut faire, c'est de s'asseoir pour savoir les raisons des échecs, pourquoi tout le temps le Parti Unir réussit à frauder les élections et que l'opposition ne réussit pas à l'empêcher. Est-ce que les stratégies que met en œuvre l'opposition ne sont pas de bonnes stratégies? Et ces stratégies, est-ce qu'il faut les changer, les modifier? Est-ce qu'il faut changer les méthodes? Est-ce qu'il faut définir une autre forme de lutte? Voilà pourquoi les états généraux de l'opposition, à mon avis, s'imposent aujourd'hui.
D'accord.
Alors, je voudrais dire également un peu, et j'en aurais fini par ailleurs, à mon ami le docteur Atiou, que je pense que ce n'est pas un argument, à mon avis, scientifique aujourd'hui, que de dire qu'on a volé les élections sans qu'on soit à même d'apporter les preuves. Je ne dis pas que les élections n'ont pas été volées, mais je dis que quand on dit ça, après 23 ans d'existence d'une opposition, on doit être à même d'apporter les preuves de la fraude.
Okay.
Les preuves n'ont pas été apportées. Mm-hmm. Moi, je suis sur le terrain.
D'accord.
Je dois vous le dire.
D'accord.
Alors, ce qu'il faut, c'est que l'opposition se réorganise mieux, à la fois pour empêcher les fraudes, et si fraude il y a, d'en apporter les preuves.
On va. Merci. Restez toujours avec nous, Philbert Sassou Atisson. Relance rapidement, docteur Edemachou Kouassi.
Philbert, je te remercie. Là, tu commences par éclairer un peu ton approche, qui diffère toujours de celle du CRD, qui ne change pas d'un iota. Je voudrais dire à tous nos compatriotes que quand une problématique est mal posée, l'approche de solution est biaisée. Et que la démarche de Philbert rentre dans les problématiques mal posées qui donnent toujours des solutions biaisées. C'est ce que le peuple togolais fait depuis des décennies. Nous, au CRD, nous disons que quoi? Je stratifie le raisonnement pour que Philbert saisisse. Parce que quand même, le Togo a de part l'univers des têtes très brillantes et qui ne peuvent pas faire l'économie d'être indifférentes par rapport à ce qui se joue sur la mère patrie. Et voilà, dans la mère patrie. On ne peut pas évacuer la crise électorale actuelle. Parce que faire cela, c'est faire le jeu du RPT intellectuellement, moralement, spirituellement et stratégiquement. Parce que cette crise électorale, si on l'évacue, c'est continuer tacitement de soutenir l'imposture et l'arbitraire dont la contre-vérité des urnes, qui est récurrente, n'est que l'expression par excellence du mépris du peuple togolais par le régime militaro-clanique. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord reconnaître qu'il y a une crise électorale. Pourquoi il y a crise électorale? Dès lors que la mission d'observation de la diaspora le dit, dès lors que l'UE le dit, nous dire aujourd'hui qu'on ne peut pas prouver qu'il y a fraude. Oui, l'opposition n'a pas tous les moyens, mais il y a certaines fraudes qui sont avérées. Moi, je dis ce que Assouma a fait s'appelle de la blague. Sous d'autres cieux, Assouma ne rentrerait même pas à la maison. Il faut arrêter, Fulbert. Vous avez un bon niveau. Ne dites pas des choses. Moi, je suis psychiatre. Je travaille sur la narration, ce qu'on me narre, celui qui est en détresse. Avant d'être psychiatre, je suis médecin. Donc j'ai un argument de base très scientifique. Mais quand quelqu'un vient avec une histoire, j'écoute l'histoire, je prends mes grilles scientifiques solides et de façon globalisante, je fais mes analyses. Donc me dire aujourd'hui que quand les gens rapportent des faits de fraude avérés, Kassouma dit oui, il n'y a pas de preuve. L'Union européenne, dont les experts, même si Spirlet joue à son jeu lugubre et nauséabond, dit qu'il y a toute une panoplie d'éléments qui discréditent le scrutin. Quiconque me dit qu'il est pour la cause du peuple togolais, et me dit en même temps, on ne prouve pas. Mais attendez, il y a laissez-moi parler, Sylvain, parce encore que là, c'est le destin du Togo qui se joue.
Une minute.
Laissez-moi parler. C'est le destin du Togo.
Une minute,
oui,
encore, oui.
Je vous allez-y. Entends. C'est le destin du Togo. Ce que nous disons, c'est que à partir de la crise électorale répétitive, récurrente, le CRD dit, la problématique est de dire quelle alternative idoine face à l'impossibilité à l'opposition togolaise de s'approprier les victoires que le peuple lui confère. Et non pas parce que l'opposition togolaise est battue, il faut qu'il y ait états généraux. Vous voyez comment c'est bien structuré notre pensée. Parce que les états généraux s'imposent. Mais comment poser la problématique? Et nous nous disons que la problématique de la crise togolaise, elle est au-delà d'une problématique électorale. Vous savez, Fulbert Atissot, vous êtes écrivain et je crois que donc vous faites des recherches. Est-ce que vous vous êtes intéressé un peu aux armoiries de différents pays de par le monde? La signification d'une armoirie. On ne fait pas la politique d'un pays sans chercher à comprendre l'histoire profonde du pays. Au niveau du CRD,
merci.
Nous posons. Je termine ainsi pour toutes les filles du Togo. Au niveau du CRD, nous posons une analyse globalisante qui va au-delà des jeux d'appareils politiques et qui prennent en compte le destin mystique, la réalité sociale, la réalité économique, la réalité culturelle, la réalité politique. C'est-à-dire, nous prenons la République du Togo dans toutes ses dimensions pour formuler maintenant une remise à plat. Comment procéder à la remise à plat? Puisque vous parlez même de la création d'un mouvement, nous sommes déjà en avance sur vous. Il y a déjà des gens qui y adhèrent. Et le 26 août, nous lançons le mouvement Kekeli Lumière.
Merci. On va laisser réagir rapidement Fulbert Atissot depuis Lomé.
Ben oui, je voudrais réagir en disant que ce n'est pas la peine d'entrer dans une polémique avec le docteur Atou, mais je pense que, comme il le dit, Francis Bacon l'a dit aussi, que un problème bien posé est à moitié résolu. Je pense, et je le redis, qu'après 23 ans, l'opposition a une mission. Inverser la tendance politique, c'est-à-dire réussir à conquérir le pouvoir qui est entre les mains des gens qui ne veulent pas le céder. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant 23 ans, toutes les élections ont été gagnées, entre guillemets, par le pouvoir RPT ou le pouvoir unir aujourd'hui. Toutes les élections. Cela n'a aucun sens. Lorsqu'on voit aujourd'hui l'état dans lequel le pays se trouve, ce parti n'a pas de bilan, ce parti a fait le cimetière bossu, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de crimes par ailleurs. Donc ce parti ne peut pas gagner des élections à la régulière. Ça, l'opposition le sait et tout le monde le sait. Alors, la mission de la nouvelle opposition qui est incarnée par de nouvelles forces, c'est de faire en sorte que si jamais il y a des élections et que l'opposition veut conquérir le pouvoir à travers des élections, empêcher le RPP de faire les fraudes. Voilà comment je pose la problématique. Première chose, il faut que l'opposition puisse empêcher le pouvoir uni de faire des fraudes après 23 ans. Si cette opposition participe après 23 ans à des élections et me dit « on nous a encore fraudé parce qu'il y a des fraudes », moi, je ne peux pas l'admettre. Je dis que il y a, à mon avis, une définition qui n'est pas appropriée des stratégies, ou en tout cas que l'opposition n'a pas réussi à sortir des sentiers battus. Et la deuxième chose, si l'opposition dit qu'il y a des fraudes, lorsqu'elle va voir des gens à l'extérieur, au niveau de la communauté internationale, au niveau même de la sous-région, à supposer qu'elle voudrait aller voir certains chefs d'État, les chefs d'État ou la communauté internationale va leur poser la question ou va poser la question à l'opposition. Vous dites qu'il y a des fraudes. Depuis 23 ans, vous tenez le même langage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude, mais où sont les preuves de la fraude? Moi, je pense que tout esprit sensé doit poser cette question-là. Et c'est la question qui est posée aujourd'hui au Togo. Quand on est au niveau de la diaspora, c'est trop facile de tenir le même discours qu'il y a 23 ans. Il y a des fraudes, et bien, etc., etc., etc. C'est trop facile de tenir ce discours. Moi, je rêve d'une opposition qui soit à même d'empêcher le RPT ou le pouvoir unir de faire des fraudes.
Merci, Fibel Atissot.
Une opposition qui a des fraudes,
merci
qu'elle
beaucoup.
Puisse avoir des procès-verbaux, les mettre sur la table.
D'accord.
S'il y a eu des fraudes.
D'accord.
Et maintenant, pour pallier à cette situation, pour faire en sorte que les prochaines consultations électorales ne soient pas émaillées de fraudes, il faut que l'opposition s'asseye pour redéfinir les meilleures stratégies qui pourraient lui permettre d'empêcher que le pouvoir ait trop de coups.
Merci beaucoup, Fibert. On comprend. Il nous reste pratiquement 12 minutes. On va quand même entamer le deuxième sujet du débat de ce soir. Mais reste toujours en ligne avec nous, Fibert Atissot. Merci de patienter depuis Lomé.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous débattons sur deux sujets aujourd'hui. Après les élections législatives, que pensez-vous de l'appel de la coalition arc-en-ciel en faveur de la tenue des états généraux de l'opposition? Le deuxième sujet, quelles sont les perspectives devant l'opposition après la proclamation officielle des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle? Est-il possible d'envisager ou non le boycott de l'Assemblée nationale? Alors, nous débattons de ce thème avec Dr Edema Choukwasi, coordinateur du CRD, collectif de résistants de la diaspora, ici même en Suisse, au sud de Radio Kankaro. En direct depuis Lomé, le journaliste, auteur du livre « Le Togo, et la dynastie des Nyasingbé est paru en 2012. Fulbert Sassou Atissot, merci de patienter depuis Lomé. Rapidement à vous, cette deuxième question sur ce sujet. Alors, quelles sont, selon vous, les perspectives devant l'opposition après la proclamation officielle des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle? Est-il possible d'envisager ou non le boycott de l'Assemblée nationale, Fulbert Sassou Atissot?
Ben, moi, je pense qu'il n'est pas possible d'envisager le boycott de l'Assemblée nationale. Parce que lorsqu'on veut s'inscrire dans la logique cartésienne, on a participé à des élections pour siéger à l'Assemblée nationale. On n'a pas participé à des élections pour boycotter l'Assemblée nationale. Parce que au départ, ou bien dès le départ, si l'opposition savait qu'elle n'a pas été dans le processus. Parce que ça aussi, il faut le dire, quand on veut participer à une élection, on est dans le processus. Je reconnais que ce n'est pas de sa faute si elle n'a pas été dans le processus. Elle a formulé des exigences qui ont été des exigences légitimes que le pouvoir n'a pas pu mettre en œuvre. Mais là aussi, il faut dire que l'opposition a mal évalué les rapports de force, parce que la politique est une question de rapports de force. Lorsqu'on veut poser des exigences face à un adversaire politique, on fait l'évaluation des rapports de force pour savoir que est-ce qu'on a suffisamment les moyens de poser des exigences et de voir ces exigences traduire dans la réalité. Bon, alors, on a participé à des élections, on ne les a pas boycottées, ces élections, on doit siéger à l'Assemblée nationale. Et je pense que l'opposition a beau jeu de siéger à l'Assemblée nationale pour conduire le débat politique au sein de l'Assemblée nationale. Et que le débat politique doit quitter la rue doit rester un instrument ponctuel de pression pour obtenir une exigence. La rue ne doit pas rester constamment le lieu où l'on marche, l'on fait le débat politique. La rue doit rester un instrument ponctuel de pression. Lorsqu'on a besoin de quelque chose qu'on n'a pas pu l'avoir au niveau de l'Assemblée nationale ou dans d'autres cénacles, eh bien, on vient à la rue et on mobilise la rue, crée le rapport de force pour voir matérialiser cette exigence. Donc, l'opposition doit aller siéger à l'Assemblée nationale pour être crédible, parce que l'opposition a besoin aujourd'hui de mettre de son côté même la communauté internationale et tous ceux qui sont pour le changement. Je crois que sa voix serait mieux entendue au niveau du Parlement qu'à l'extérieur du Parlement. Donc l'opposition doit siéger, elle ne doit pas boycotter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quelle perspective pour l'opposition? Je pense qu'aujourd'hui, il est important que l'opposition sache dans quelle option de lutte elle s'inscrit. Est-ce qu'on s'inscrit dans l'option de lutte qui consiste à amener le peuple à prendre ses responsabilités et à opérer lui-même le changement à la manière de ce que nous appelons la révolution populaire? Ou bien est-ce qu'on s'inscrit dans le schéma électoral? Alors, si on s'inscrit dans le schéma électoral, il est important que les différentes composantes de l'opposition s'asseyent, se rassemblent, dégagent de nouvelles perspectives, nomment un candidat unique de l'opposition, et là aussi c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important pour 2015. L'opposition doit avoir dans son ensemble un candidat unique si jamais elle veut participer aux élections de 2015. Et ce candidat unique doit être un homme qui rassemble tout le monde au sein de l'opposition, avec beaucoup d'humilité, suffisamment d'humilité et de modestie pour rassembler tout le monde autour de lui, rassurer les gens dans le camp du pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il est évident pour tout le monde que le camp du pouvoir aussi est fissuré. Il y a dans ce camp des gens qui veulent aujourd'hui que ce pays change, que ce pays aille vers une alternance. Il faut que le candidat unique de l'opposition rassure ces gens-là, rassure un certain nombre de composantes sociopolitiques qui entrent dans ce que j'appelle la problématique de l'alternance politique. Et il faut que cette opposition mette également de son côté la communauté internationale et explique à cette communauté internationale la nécessité que ce pays aille vers une alternance politique. L'opposition va remobiliser les populations, aller à la conquête des populations dans les campagnes. Et au finish, j'en terminerai là,
30 secondes.
Ce candidat unique de l'opposition derrière lequel tout le monde va se rassembler doit incarner une alternative, c'est-à-dire démontrer à tout le monde que l'opposition est capable de remplacer le pouvoir en place et de gérer le pays dans l'intérêt de tout le monde.
Merci beaucoup, Philbert Sassoua-Tissot. Je relance également sur la même question, docteur Edemachou Kouassi. Alors, pour vous, dans les conditions actuelles, dans la configuration politique actuelle du Togo, est-ce que vous pensez vraiment que cette opposition a une perspective après la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle? Est-il possible d'envisager ou non le boycott de l'Assemblée nationale?
Je vous remercie Sylvain. Avant de venir à votre question, je voudrais quand même rappeler à Philbert de ne point douter que on n'est pas que dans la diaspora. Nous sommes très fréquents sur le territoire national et même nous suivons de près pas mal de choses plus que les gens qui sont sur le territoire national. Ça, c'est un rectificatif que je voudrais lui faire. Je voudrais aussi, avant de répondre à votre question, mes pensées vont à ma femme et à un de mes cousins qui sont mes meilleurs critiques parce qu'ils ont fait des études de Sciences Po et ils aiment me dire des choses qui m'échappent. Ils ont l'habitude de me dire que en politique, il y a au moins deux agendas, l'agenda républicain et l'agenda social. On voit que l'analyse discursive de Philbert n'est axée que sur l'agenda républicain. C'est encore un biais pour apporter des solutions efficaces, Philbert. Parce que quand vous voulez faire la politique, au moins vous avez en vue deux agendas, l'agenda républicain et l'agenda social. L'agenda républicain, les pouvoirs politiques, c'est eux qui le conduisent. Ils en sont maîtres, unilatéralement, comme on l'a vu avec la frauduleuse des législatives du 25 juillet, ou de concert avec les autres acteurs politiques, comme ça s'est passé au Mali récemment et Ibeka en est sorti victorieux. Maintenant, il y a l'agenda social. L'agenda social, c'est l'agenda du peuple, le détenteur de la souveraineté, qui le délègue à travers l'agenda républicain. Mais vous vous foutez pas mal du peuple togolais, drôle de politique togolais, d'analyste togolais. Quand même, le peuple togolais est le détenteur de la souveraineté. Et l'agenda social, personne ne le lui dit. Aujourd'hui, 14 et 15 août, dans la région des savanes, inondation, 62 familles ne savent où se donner la tête, 29 maisons écroulées, ponts écroulés, Abascaboua, Olivier, Ama, Pacha et tant d'autres que d'injustice dans chaque préfecture, quid de la situation de nos chers enseignants. Parce que moi, j'ai une grande reconnaissance à ceux qui m'ont formé au Togo. Ils m'ont tout donné au Togo avant de quitter ma patrie. J'ai une grande reconnaissance à mes collègues qui sont restés et tiennent les hôpitaux du Togo. J'ai une grande reconnaissance à ceux, nos petits frères et sœurs, qui évoluent dans ce système. Donc, l'agenda social, mais il y a tellement d'éléments dans l'agenda social que ce gouvernement ne tiendra pas. Le peuple étant le souverain, détenteur de la légitimité. Nous, nous disons au niveau du CRD que, oui, quand Philbert parle d'amateurisme stratégique de l'opposition, c'est vrai, on ne peut le nier. Mais cela n'évacue en rien la nature immonde du régime militaro-clanique avec qui l'alternance par les unes reste un leurre tant que le gouvernement mondial les cautionnera. Donc, Philbert, arrêtez de divertir les Togolais. L'alternance par les unes, nous disons au CRD, nous appuyons sur beaucoup d'éléments, que ça reste un leurre, même si on s'organise dans le meilleur des cas, tant que le gouvernement mondial va les soutenir. Ce qui voudrait dire que quand vous parlez des états généraux de l'opposition, c'est là où c'est intéressant. C'est plutôt poser correctement la problématique. Par quelle voie peut s'opérer l'alternance au Togo? Pourquoi, comme vous le dites si bien, les choses vont dans ce sens? Et c'est là où nous vous disons que nous, au CRD, nous disons que depuis 1946, avant que le Togo ne soit indépendant, il y a eu une prophétie sur le Togo. La déclinaison et l'agencement des événements confirment cette prophétie et que partant de cette prophétie, nous sommes à l'étape où les courageux vont affronter les méchants. Et nous disons, nous, au CRD, qu'il y a beaucoup de perspectives pour le peuple togolais. Nous disons au CRD que les gens n'ont qu'à nous rejoindre. Nous disons, nous, au CRD, que le mouvement Kekeli, qui va naître le 26 août, les Togolais n'ont qu'à le rejoindre parce que c'est un combat spirituel.
On peut vous comprendre, docteur Atou Edem Kwasi. Ma question était, est-ce que actuellement, est-il possible d'envisager ou non le boycott de l'Assemblée nationale?
J'en viens. Pour l'Assemblée nationale, je vais vous dire, quand Philbert dit que la voix de l'opposition portera mieux au sein du Parlement que dans la rue, c'est faux. Mais l'opposition, en termes de responsabilité, dès lors qu'elle a accepté d'aller à ces élections, ne doit pas
boycotter le Parlement. Mais je précise encore, je le dis parce qu'il faut pas.
Là, vous rejoignez également Fulbert Atissot.
Je ne le rejoins pas. Il y a une grande différence entre Fulbert et moi, parce que Fulbert, ses postulats ne sont pas les miens. Ses postulats sont biaisés. Les miens sont très cohérents. La voix de l'opposition ne portera pas au Parlement. Ça portera plus dans la rue. Mais en termes de responsabilité, parce que quand vous voulez gérer des hommes, quand vous voulez bâtir, un bâtisseur, c'est un homme de vision et responsable. Donc, rien que pour cela, ils doivent être au Parlement. Mais leur force, c'est à l'arrimant à ce qui va se jouer dans la rue, à l'arrimant, à l'opposition extra-parlementaire, à l'arrimant, en se faisant humbler, en écoutant le mouvement Kekeli, le CRD et tous ceux qui sont lucides. Voilà.
Avant de finir cette édition, nous allons encore relancer une dernière fois pour un dernier mot, Fulbert Sassou Atissot, depuis Lomé.
Ben oui, moi je voudrais quand même dire que les propos du docteur Atou, je pense qu'il doit être un jeune frère, je ne le connais pas. C'est pour ça que je voudrais lui rappeler que je suis un ancien de la lutte. Il rappelait tout à l'heure...
Vous n'êtes pas un ancien, arrêtez ça. Parce que moi, je peux vous raconter
On doit le laisser parler. Fibre Latissot, allez-y.
Oui. Donc, il rappelait tout à l'heure Abbas Kaboua et Olivier Hamant. Moi, je vais lui dire que j'ai déjà fait deux fois la prison pour mes opinions politiques. Il peut se renseigner, Romain est à côté de lui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette rhétorique de l'agenda républicain, de l'agenda social, pour moi, ce sont de vrais mots. Alors, moi, je suis pratique. Mes réflexions sont simples et nettes. Ça se joue sur le terrain. J'ai beaucoup de respect pour les amis de la diaspora. La dernière fois que j'étais là-bas, il n'y a pas longtemps, il y avait deux mois, j'étais chez Agotavinsou à Bayreuth. Agotavinsou est également un membre du CRD. Alors, je pense que ça se joue sur le terrain. La contribution de la diaspora est très, très, très importante. Je suis un ancien de la diaspora moi-même, mais ce que je voudrais dire, c'est que notre opposition doit s'organiser mieux. Si elle veut soit aller dans l'option qui consiste à permettre au peuple de prendre son destin en main, ou si elle veut aller par les urnes, moi je suis de ceux qui pensent qu'il est possible au moins de démontrer qu'on peut battre le RPT à travers les urnes. C'est-à-dire qu'on peut faire des élections, même si le RPT les vole, on est capable d'apporter les preuves à travers des procès-verbaux qu'on l'a battu. La preuve peut être apportée, elle peut être faite. Et je pense que tout dépend de l'organisation de cette opposition. Et la réorganisation de l'opposition avec de nouvelles perspectives, avec de nouvelles stratégies, avec la définition d'une option, je ne suis pas contre l'option qu'elle est en train de développer, passe à mon avis par les états généraux de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition doit s'asseoir dans toutes ses composantes pour définir les nouvelles options de lutte, les nouvelles stratégies et les perspectives pour l'avenir.
Merci beaucoup, Fulbert Sassou Atissot, de nous avoir accompagnés en direct depuis Lomé. Fulbert Sassou Atissot est auteur du livre « Le Togo sous la dynastie des Gnassingbé », édition, livre paru en 2012, édition Harmattan. Fulbert Sassou Atissot, merci infiniment depuis Lomé.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Eh bien, retour au studio rapidement. Deux minutes pour conclure ce débat sur la situation sociopolitique du Togo, justement, après les élections législatives très, très contestées par l'opposition. Mais pourtant, cette opposition a jugé bon d'aller siéger à l'Assemblée nationale déjà. Et donc, votre dernier mot avant, ou bien je peux relancer... Et notre collaborateur Romain Koudodi qui a quelque chose à dire avant et le dernier mot du docteur Edem Atukwasi. Romain.
Cher Sylvain, je pense que les deux interlocuteurs du débat ont été unanimes sur un point, le point sur lequel il faille en politique s'assumer. Dès lors que la classe opposante décide d'aller aux élections, elle n'a pas le droit d'opter pour le boycott. C'est une position incohérente et inconséquente. Maintenant, peuvent venir se greffer d'autres doléances portant sur la rue, ce qui est fort plausible. C'est mon point de vue.
Le Togo, notre Odenigban se meurt politiquement, socialement et économiquement. Pour ce faire, le collectif de résistance de la diaspora, CRD Togo, lance un appel patriotique pressant à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, spécialement la diaspora, pour le ralliement du front de la résistance citoyenne. Chaque contribution, quelle qu'elle soit, est déterminante pour réussir la mission de restauration citoyenne de la terre de nos aïeux.
Oui, d'accord.
Pour toute contribution financière, contactez les responsables du CRD au 0041 78 676 51 62 0041 76 378 02 77.
Oui, d'accord, avions la voie.
Merci pour vos dons financiers au CRD.
Oui, d'accord, avions la voie.
Togolais, viens, bâtissons la cité.
Oui, d'accord, il a joué.
Eh bien, retour au studio pour conclure ce débat sur la situation sociopolitique du Togo, justement après les élections législatives contestées donc par l'opposition, mais cette opposition qui veut quand même siéger à l'Assemblée nationale. Débat, c'était avec le journaliste Fulbert Sassou Atisso, également docteur Edem Atukwasi du CRD, collectif de la résistance et collectif de résistants de la diaspora togolaise. Alors, docteur Edem Atukwasi, rapidement, 2 minutes pour conclure ce débat.
Avant de conclure ce débat, Sylvain, permettez-moi de saluer quand même Fulbert pour sa lutte. Lui qui a payé dans sa chair ce combat. Et en parlant de Fulbert, je pense à Romain à côté de moi. Je pense à mes amis Olivier et Abbas, je pense à la multitude qui dans leur chair, dans leur âme, et ceux qui nous ont quittés nous précèdent, paient le prix du martyr. Mais je voudrais dire à mon peuple, à notre peuple, d'être serein, d'être dans l'action de grâce, parce que le moment est venu, comme l'a prédit la prophétie de 1946. Nous, au CRD, nous avons une approche arrimée à 2 lignes directrices. À savoir l'approche par le bas, c'est-à-dire c'est l'agenda social qui primera sur l'agenda républicain. Le peuple doit être au cœur de l'action politique. Le peuple ne doit plus être un bétail électoral sur le dos duquel il y aura des calculs politiciens à travers des pseudo tables rondes ou remises en place, mais qui toujours portent sur des appareils politiques. Première ligne. Deuxième ligne, nous disons que après lecture holistique et globalisante de cette crise, nous pouvons dire à nos compatriotes, sans nous tromper, que ce n'est pas en vain que le Togo s'appelle l'or de l'humanité. C'est un destin mystique. Et que l'or est voilé par la puissance des ténèbres qui pèsent sur notre terre, la terre de nos aïeux. Donc, pour chasser les ténèbres, il n'y a que la lumière. Donc, notre deuxième ligne directrice, qui au fait n'est que la conséquence de la première, à savoir l'approche par le bas, c'est que le mouvement Kekeli, qui est lumière, mais lumière qui vient du Père Créateur, va se déferler sur la nation tout entière pour faire reculer les ténèbres. Nous avons besoin de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier pour qu'ils nous rejoignent. Pour qu'ils nous rejoignent dans la pureté de cœur, dans un combat où seul le bien-être de chaque enfant du Togo compte, et non des postes, et non un supposé avenir matériel. L'avenir est radieux pour le Togo. Nous disons au CRD, béni soit Dieu, et que les Togolais retroussent la manche, car le moment de la lutte, la vraie lutte qui est celle de la résistance citoyenne, est arrivée et la victoire est nôtre.
Merci beaucoup. C'est mouvant, très mouvant. Votre conclusion dans ce débat, Fenêtre sur l'Afrique, sur la vie sociopolitique du Togo, justement après les élections législatives. Merci à vous qui avez suivi cette émission et ce débat. Merci infiniment à la diaspora togolaise. Merci à toute l'équipe de Fenêtre sur l'Afrique depuis Lomé, ici même en Suisse, à Aro, à Ben, à Fribourg, à Lausanne, à Genève. Merci à vous, à nos fidèles auditeurs des USA, de la Finlande, de la Suède, d'un peu partout dans le monde entier qui ont voulu participer à ce débat. Et malheureusement, le temps nous est très peu. Nous allons relancer ce débat dans un instant, disons-nous dans 8 jours, si tout va bien. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos et son équipe. Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagnon. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.